Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et même 8h17 pour être précis. Ce matin, notre invité politique est Guillaume Auffray, il est président de Renaissance Morbihan. Et il a fait la route pour être avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de politique, vous l'aurez compris Guillaume Auffray, et on va parler surtout de ce qui s'est annoncé hier soir chez nos confrères de France 2. Michel Barnier, le Premier ministre, était l'invité de France 2. Il a fait beaucoup d'annonces hier soir. D'abord je vous demande si vous avez regardé cette intervention.
Je n'ai pas pu la regarder, par contre j'ai lu les comptes rendus avec beaucoup d'intérêt.
Voilà, alors on va essayer de passer en revue quelques mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre. Entre autres, la hausse des impôts à venir. 300 entreprises seront concernées. Il faut équilibrer, ou tout au moins essayer de boucher ce qui peut l'être en termes de budget de l'État. Est-ce que c'est une bonne idée d'imposer finalement les grandes entreprises, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ?
Écoutez, vous l'avez peut-être vu, c'est vrai que la famille du camp présidentiel, nous sommes très réservés sur cette hausse de la fiscalité et surtout sur les entreprises, puisque nous avons l'impression que ça aura un effet contre-productif. Mmh. C'est un message qui est envoyé au tissu productif qui est très mauvais. Ces grandes entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, elles ont des sous-traitants et il est certain que cette hausse de la fiscalité va être répercutée sur l'ensemble du tissu productif. Et que s'il y a un effort à faire, on peut peut-être envisager, au vu des chiffres du déficit, de manière très ponctuelle, mais si cette hausse de la fiscalité devait s'inscrire dans la durée, je crois et je pense et j'espère que le camp présidentiel s'y opposera.
Donc là, on peut aller vers, sinon une motion de censure, en tout cas, une grande réserve de la part du camp présidentiel.
Écoutez, nous sommes en coalition. Donc il y a une négociation qui a lieu, le Premier ministre a fait des annonces. Ces annonces, vous l'aurez noté, restent quand même avec beaucoup de marge de manœuvre. Mmh. Et donc je pense qu'il y a encore, des détails qui méritent d'être négociés tous ensemble.
Voilà, donc comme on dit, le diable se cache souvent dans les détails. Il y a également le report de 6 mois de la revalorisation des retraites. Mmh. Là, ce sont les retraités qui sont mis à contribution pour essayer, là aussi, de faire quelques substantielles économies. Là aussi, bonne idée ou pas bonne idée ?
Mais il ne vous aura pas échappé que l'année dernière, les retraites ont été plus augmentées que les salaires, puisqu'elles ont été augmentées au niveau de l'inflation. Donc il y a une forme de rattrapage qui est fait, qui permet aux salaires d'être augmentés peut-être un peu plus que les retraites. Chacun doit participer à l'effort et en effet, il y a ce report de 6 mois qui permet d'économiser de l'ordre de 3 milliards d'euros. C'est pas rien du tout, hein. C'est absolument énorme. À titre personnel, je trouve que c'est une piste intéressante. À voir ce que ça va donner aux négociations au Parlement.
Voilà, et qui seront les retraités les plus taxés, si j'ose dire ? J'imagine qu'il n'y aura pas de taxation importante sur les petites retraites.
Alors là, il ne s'agit pas d'une taxation, il s'agit d'un report d'une augmentation.
Report, voilà,
donc
oui.
y a vraiment...
Voilà, je mets le guillemet à taxe.
Voilà, c'est vraiment... C'est la douleur, c'est par rapport à l'inflation, puisque quand on va au supermarché, on voit que le caddie augmente, mais que la retraite, elle est la même. Mmh. Et c'est ça, j'entends que ça peut être un peu compliqué, mais il n'y a pas de taxation supplémentaire à ce stade, sauf si vous êtes un retraité. Visiblement, moi, de ce que j'ai entendu, de ce qui s'est dit hier soir, un retraité qui gagne plus de 500 000 euros.
Voilà, donc de grandes retraites, de grosses retraites, on va dire.
Là, pour le coup, on est vraiment sur des retraités, il n'y en a pas beaucoup dans ce pays.
Alors il y a également les services publics, là aussi il y a des mesures d'économie, des économies à trouver. Michel Barnier entend fusionner des services publics, entend ne pas forcément renouveler des postes de fonctionnaires qui partent à la retraite. Alors qu'il y a une demande aujourd'hui sur les territoires ici en Bretagne, on entend les zones rurales qui se plaignent de ne pas avoir assez de services publics ou des services publics qui ferment. Là aussi on a l'impression d'une petite distorsion.
Écoutez, peut-être, en effet, j'entends tout à fait qu'il puisse y avoir une distorsion par rapport au ressenti de certaines personnes, notamment dans les services publics de la santé, où on le sait, sur nos territoires ruraux, il y a un vrai déficit. Néanmoins, lorsqu'on regarde les services publics territoriaux, il y a des marges de manœuvre aujourd'hui. Regardez, récemment, on a discuté des fermes urbaines à Paris qui ont des niveaux de production qui sont très faibles. Et ça, c'est l'équivalent de 300 fonctionnaires. Je ne sais pas si le rôle d'une municipalité, c'est de produire des légumes à des prix disproportionnés. Voilà, ça m'interpelle. Peut-être que ça permettra aux collectivités de se concentrer justement là où les besoins sont les plus forts.
Alors, il y avait une polémique du temps de Bruno Le Maire, si j'ose dire comme ça, qui avait un petit peu vilipendé les collectivités territoriales, les élus des territoires, en disant, voilà, vous avez dépensé, on a un trou. Alors, à l'époque, on évoquait 16 milliards d'euros, on en est à 60 aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu la mauvaise gestion des collectivités territoriales. Ça a été très mal perçu, finalement.
Alors, c'était très mal perçu, mais ça a été très mal interprété. Le propos n'a jamais été de dire que les collectivités sont mal gérées, c'est de dire que les collectivités se sont plus endettées. Or, l'endettement des collectivités rentre dans l'endettement public. C'est-à-dire que l'endettement de l'État, dans son ensemble, au sens de la dette européenne, a augmenté du fait de la dette des collectivités. Et si elles se sont endettées, c'est pas forcément qu'elles sont mal gérées, c'est juste c'est factuel, c'est qu'elles se sont endettées. Et donc, du coup, ça vient plomber le déficit général de l'État. J'entends que les collectivités crient au loup parce qu'elles ont peur de participer à l'effort collectif, mais il n'y a eu en aucun cas une mise en cause de leur gestion. C'est juste une description très factuelle de ce qui se passe et qui explique en partie pourquoi il y a eu un dérapage de la dette publique dans ce pays.
Voilà, mais là, c'est vrai que sur le terrain, les élus qui doivent faire plus avec pas forcément des moyens extensible, hein, on le voit, il y a toujours des demandes de la part des collectivités territoriales, de la part des régions vis-à-vis de l'État en disant donnez-nous plus de moyens, faites-nous confiance et aussi d'un autre côté, on a la notion du territoire, donc on peut mieux gérer ce territoire et l'argent qui va avec. Est-ce que là aussi il y aura un effort de décentralisation à faire? Là on sort un petit peu des annonces de Michel Barnier.
Alors bah écoutez, moi j'espère et c'est peut-être le regret que j'ai en tant que cadre du parti présidentiel, c'est qu'on n'ait pas été assez présent sur ce sujet de la décentralisation et qui va de pair avec un sujet lié aux finances publiques et à la capacité des collectivités à gérer leurs propres recettes et donc à être responsables de la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, on leur donne une dotation et cette dotation, évidemment, c'est un peu pousse au crime. C'est-à-dire que plus la dotation qui m'a été donnée, je vais la dépenser à fond et on a toujours plein d'idées. Surtout quand on est élu et qu'on a une élection qui arrive bientôt sur savoir comment on va dépenser cet argent. Et j'espère que du coup on va changer cette logique qui permettra aussi de valoriser les élus qui ont une dépense responsable.
Voilà, donc valoriser les élus et gérer en bon père de famille. Il y a aussi les prestations sociales. Il en a été question hier soir avec Michel Barnier. Des prestations sociales, il y en a beaucoup. Michel Barnier entend lancer un grand chantier sur l'allocation sociale unique. Est-ce que c'est une bonne idée, là aussi, de vouloir regrouper toutes les allocations pour avoir finalement une vue d'ensemble de ces allocations?
Je trouve que c'est une excellente idée que je défends à titre personnel depuis quelques années, qui a été défendu par certains dans le parti présidentiel depuis maintenant quelques temps. L'idée, c'est de rassembler l'ensemble des aides. Pourquoi ? Pour permettre à tous ceux qui en ont le droit de pouvoir avoir ces aides qui leur sont directement versées. Aujourd'hui, on le sait, beaucoup des gens qui ont le droit à des aides ne les perçoivent pas parce qu'ils n'en font pas la demande ou parce qu'ils ne savent pas qu'ils en ont droit. Et je trouve qu'à ce titre, c'est très problématique. Ces aides, elles sont pas là pour permettre à des gens de vivre dessus, mais de permettre à des gens de devenir autonomes et donc de leur remettre un pied à l'étrier pour s'intégrer dans la société avec un emploi durable, etc.
Ça nous amène aussi à l'assurance chômage. La réforme, pour l'instant, est gelée. En tout cas, elle est gardée sous le coude. Michel Barnier entend non seulement la remettre au goût du jour, mais en plus, peut-être la renégocier. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre le chantier là où il s'était arrêté, peut-être de revoir c'est un volet important, le social, hein, de revoir cette allocation chômage, les modifications qui ont été aussi perçues là par les allocataires comme très coercitives, comme très contraignantes?
Aujourd'hui, non, pour certains emplois, sur certains territoires, nous sommes très proches du plein emploi. C'est par exemple le cas dans notre région, ici en Bretagne. Lorsqu'on voit aujourd'hui que certaines personnes, et moi c'est ce qu'on me dit, je suis élu local à Vannes, lorsque je parle aux restaurateurs, on me parle de ce cas, mais quand je dis on me parle, c'est pas des cas isolés, c'est généralisé de gens qui se disent « je travaille 6 mois, je fais 6 mois chômage ». Et lorsque les restaurateurs vont leur dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Ils disent « mais parce que j'y ai droit, j'ai cotisé ». Mais non en fait. L'assurance chômage, c'est une assurance. Et c'est pas, lorsque vous cotisez 6 mois de cotisation, ça ne vous fait pas 6 mois d'allocation. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent que vous pouvez recevoir ces allocations. Et aujourd'hui, il y a très clairement des excès dans le système. Il s'agit de les corriger, qui plus est, lorsqu'il y a le plein emploi.
Abus, finalement, il y a des gens qui profitent de ce système.
Dans n'importe quel système, il y aura des abus, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, alors qu'on est en plein emploi, alors que notre système social nous coûte très cher, il est peut-être temps d'essayer de corriger une partie de ces abus. Et je pense que c'est ce que souhaite cette réforme. La question, c'était aussi sur le fait de renégocier, de revoir. Moi, je pense que c'est une bonne idée, surtout si ça permet d'avoir les syndicats autour de la table. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, je trouve que la logique de cette réforme, elle est bonne et surtout, elle répond à une attente de nombreux employeurs et de nombreux citoyens ici dans le pays.
Alors, autre réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a déversé beaucoup de gens dans la rue. Là, les syndicats étaient en première ligne, les partenaires sociaux. C'est la réforme des retraites. Là aussi, Michel Barnier entend rediscuter. Alors, on ne sait pas dans quel périmètre la discussion aura lieu, mais en tout cas, rediscuter, essayer de peut-être modifier cette réforme des retraites. Est-ce que là aussi, c'est une bonne idée de remettre le travail sur l'ouvrage ?
Il ne vous aura pas échappé que c'est une demande assez forte des syndicats que d'avoir cette discussion et qui est un préalable à d'autres discussions qu'on pourrait avoir sur d'autres sujets sociaux. Pourquoi pas ? Le Premier ministre souhaite corriger certains aspects de la réforme. Écoutez, laissons la discussion avoir lieu et voir ce à quoi ça pourra aboutir. Néanmoins, de notre côté, il y a des aspects qui nous paraissent fondamentaux, et c'est l'aspect évidemment financier. C'est-à-dire que cette réforme, elle a été faite pour rééquilibrer le système et pour lui permettre de se maintenir dans la durée, parce que nous souhaitons que ce mécanisme de redistribution lié aux retraites puisse durer dans le temps. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, il n'était pas équilibré. Donc cet équilibre, nous avons essayé de le remettre avec la dernière réforme. Il y a peut-être des ajustements à avoir. Par contre, il faut que cette logique de rééquilibrage reste.
Il faut rééquilibrer, il faut apaiser aussi la société, en tout cas sur les aspects sociaux également, car on voit qu'on a une société très fracturée, on a une montée de la précarité, en particulier chez les jeunes. On entend les étudiants beaucoup en ce moment qui s'expriment, ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à vivre tout simplement en faisant leurs études. Est-ce que là aussi il y aura un chantier à conduire ? Là aussi, ça n'a pas été forcément évoqué dans le discours de M. Barnier, mais est-ce qu'il faudra explorer des pistes là aussi.
Ce que vous évoquez est à mon sens la plus grande injustice aujourd'hui dans notre société. C'est que nous, les jeunes, les moins de 30 ans, sont aujourd'hui ceux qui sont le plus précaires. Le plus précaire par rapport à la santé, le plus précaire par rapport au logement, par rapport à l'emploi. Et ils sont beaucoup plus précaires que les retraités, qui sont, il est vrai, beaucoup plus protégés de par leur expérience de vie, mais aussi de par les aides sociales, où tout est fait plutôt pour les retraités que pour les jeunes. Et je trouve que ce que ça dit de notre société, ça doit nous alerter. Et j'espère que le gouvernement, en effet, abordera ce sujet qui me paraît essentiel en termes de politique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un désinvestissement des jeunes de la politique qui explique en partie aussi pourquoi toutes les politiques publiques sont orientées vers les retraités. Et c'est très bien que nous répondions aussi aux besoins des retraités. C'est même un honneur pour la société de le faire. Mais là, on a plutôt l'impression d'un abandon des jeunes. Quand on voit les queues sur les aides alimentaires,
c'est... On le voit à Rennes en particulier,
oui, mais ou même ici à Saint-Denis. On voit bien que c'est plus des jeunes que des personnes âgées, et ça doit nous alerter. C'est même très grave que ça se passe comme ça. Mais la crise du coronavirus, c'est les jeunes qui ont payé les premiers. Alors c'est les vieux qui étaient les personnes âgées qui étaient les plus exposées. Mais c'est les jeunes qui ont dû sacrifier, alors qu'ils étaient moins exposés, leur vie pour ne plus sortir, pour ne plus peut-être travailler, c'était compliqué puisque les emplois, c'était surtout les jeunes qui étaient en situation de précarité parce qu'ils devaient rentrer dans le monde de l'emploi. Donc, il faut qu'on s'implique en effet à répondre à ces problématiques.
Voilà, avec une grande colère chez les jeunes étudiants, ils revendiquent beaucoup.
Et que je comprends et que je partage.
Il y a aussi le dossier de l'agriculture qui nous concerne, partout en France, mais ici particulièrement sans doute en Bretagne, sans chauvinisme aucun. On va faire une pause sur les normes, a dit Michel Barnier hier. Trop de normes, trop de complications, les agriculteurs ont besoin de sérénité, ont besoin d'argent aussi.
Alors, non seulement faire une pause sur les normes, c'est très bien, c'est ce qu'il a annoncé, mais j'aimerais bien qu'on en enlève certaines aussi, c'est qu'on allège le poids des normes. Ce que nous disent les agriculteurs, c'est que aujourd'hui, ils passent une partie importante, conséquente de leur temps à répondre à des demandes d'aide qui ensuite leur permet d'accéder à des aides qui leur permettent de vivre. Je, je, Cette logique-là de devoir répondre à des papiers administratifs pour avoir de l'aide alors qu'on est censé produire de la nourriture et que c'est ça sa fierté, d'être un paysan, d'être un agriculteur, je trouve qu'on marche peut-être un peu sur la tête et l'idée c'est de revenir dessus. Évidemment, tout cela à faire avec beaucoup de pincettes et de précision, parce que l'idée c'est qu'on est sur une direction de faire beaucoup plus attention à l'environnement et c'est très bien, et l'idée c'est de garder cette direction. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais en attendant, aujourd'hui, très clairement, on est allé dans le trop de réglementation. C'est ce que nous disent les agriculteurs et je crois qu'il faut les entendre.
Trop de réglementation, c'est aussi l'Europe, c'est aussi l'Union européenne, c'est Bruxelles aussi qui a... Alors, on ne va pas dire que c'est de la faute à l'Europe systématiquement, c'est pas le sujet, mais beaucoup de normes ont été entérinées aussi au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut rediscuter certaines normes avec l'Union européenne ou essayer de changer quelques règles?
Alors, l'Union européenne, c'est nous. Donc, si l'Union européenne a failli, c'est en partie parce que nous n'avons pas vu les sujets, parce que nous n'avons pas bien défendu ces sujets auprès des institutions européennes, duquel nous participons. C'est pas un acteur extérieur qui vient imposer d'en haut, c'est aussi en partie nous.
C'est souvent ressenti comme ça.
Oui, c'est vrai, mais je me permets de cette petite correction parce qu'elle me paraît importante. On a l'impression que l'Union européenne, ça vient de loin, mais en fait, l'Union européenne, c'est un peu nous. Et donc, si l'Union européenne ne fonctionne pas comme elle devrait, c'est parce que nous n'avons pas fait notre travail en tant que participants, en tant que membres, et membres très importants de l'Union européenne.
Pour quelques rediscussions possibles au sujet de l'agriculture,
absolument,
par exemple.
Et je pense que les agriculteurs polonais seront tout à fait d'accord avec ces constats, les agriculteurs allemands aussi. Et ça me paraît très important, et je pense qu'on va y arriver.
Alors, autre sujet qui est très clivant, comme l'on dit, l'immigration. On a entendu Michel Barnier s'exprimer sur le sujet. Il assure, Michel Barnier, que c'est lui qui va fixer la ligne. Peut-on accueillir tout le monde? C'est finalement la question. Comment accueillir les gens dignement et comment peut-être, là aussi, réintroduire une notion européenne pour que tout le monde puisse être accueilli dans de bonnes conditions et qu'il y ait une forme de lissage au niveau des pays?
Vous me donnez l'occasion, puisque notre nouveau ministre de l'Intérieur s'est beaucoup positionné sur le sujet, de répondre à la polémique sur l'immigration positive, négative pour le pays. J'ai trouvé cette polémique absolument abjecte, littéralement. Alors, nous sommes évidemment dans un gouvernement de coalition, il n'empêche que nous pouvons avoir des désaccords. Et là, c'est un désaccord fort. L'immigration pris dans son ensemble comme quelque chose de négatif, je crois qu'il faut être complètement aveugle sur ce qui se passe dans ce pays, à la fois sur son histoire, mais aussi sur les besoins que nous avons futurs. Nous avons évoqué tout à l'heure le fait que notre système social est aujourd'hui en difficulté, et c'est en partie parce que nous avons besoin de plus d'actifs pour participer et financer notre système social très généreux.
Il y a une grande baisse de la natalité en France et en Europe plus généralement.
Et l'immigration nous permettra d'y répondre. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des problèmes sur l'immigration, sur l'intégration, sur le fait que nous avons probablement besoin d'orienter une immigration très qualifiée. Donc ça, pour le coup, ce sont des chantiers sur lesquels nous méritons de travailler. Par contre, un peu de nuance dans ce débat qui en a bien besoin.
On a beaucoup évoqué le parti de Mme Le Pen, le Rassemblement National, autour de la formation de ce gouvernement. Il y a eu des échanges entre elle et le Premier ministre. Est-ce que finalement, c'est le RN qui détient la clé et peut-être la motion de censure qui pourrait faire tomber ce gouvernement?
C'est mathématique. Évidemment que ce gouvernement, à partir du moment où le nouveau Front Populaire, dans son ensemble, refuse de rentrer en discussion avec ce gouvernement... La seule possibilité pour qu'ils tiennent, c'est la bienveillance du Rassemblement National, je le regrette. J'aurais souhaité que d'autres équilibres eussent pu être trouvés, ça n'a pas été le cas. Il faut accepter ça, néanmoins, ne pas manger dans la main de Marine Le Pen me paraît essentiel. Et j'espère que M. Barnier fera exactement ça.
Il l'a dit en tout cas, je ne négocie pas avec Marine Le Pen, hein, ça a été son leitmotiv. Néanmoins, on a vu aussi cette alerte de la part des électeurs français, près de 11 millions qui ont porté leur voix sur le Rassemblement National. Ça dit quelque chose tout de même de la société et de l'envie de changement et peut-être de bousculer le monde politique.
Absolument. Pour quelqu'un qui vient d'un parti politique plus du centre, c'est quelque chose d'absolument effrayant. C'est quelque chose qui nous alerte, qui nous force à repenser peut-être notre logiciel, puisque nous avons perdu et les défaites, c'est souvent l'occasion de se remettre en question. Maintenant, au travail, pour essayer de dire aux électeurs que les solutions du Rassemblement National ne sont pas des bonnes solutions pour le pays.
Mais comment le leur dire alors qu'aujourd'hui, il y a un rejet aussi de la politique d'Emmanuel Macron, on l'a ressenti. Est-ce que finalement c'est une réaction ? C'est-à-dire on ne veut plus d'Emmanuel Macron comme président de la République, en tout cas dans le fait politique ?
Pour une partie des Français, c'est très certainement le cas. Mmh. Et de toute façon, du coup, maintenant c'est le gouvernement de Michel Barnier qui dirige le pays. C'est plus le gouvernement d'Emmanuel Macron. Mmh. À partir de là, je pense qu'il y a eu une réponse qui a été donnée aux Français. C'est un gouvernement de coalition dans lequel nous participons, nous pèserons sur la ligne. Peut-être que ce sera un autre gouvernement après, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, les Français ont souhaité envoyer un message. Je pense qu'avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, c'est un nouveau gouvernement avec une nouvelle politique qui va être menée.
On peut imaginer que ce gouvernement soit éphémère. On peut aussi imaginer qu'il aille jusqu'à une prochaine dissolution. Alors, ce ne sera pas avant le mois de juin, puisque la Constitution...
Et on peut aussi imaginer qu'il dure plus longtemps.
Et alors, voilà, vous me l'avez attrapé au vol, comme je le dis, comme j'ose vous le dire. Effectivement, on peut imaginer que ce gouvernement, finalement, perdure et puisse avancer sur des grands sujets tels que ceux que nous avons évoqués.
Tout à fait, je le souhaite, pour le pays, que nous puissions, qu'il puisse durer le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Et ensuite on verra. Et c'est lui laisser sa chance aussi de pouvoir appliquer des programmes et de ne pas remettre sur les chevaux pour l'ensemble des Français une nouvelle élection, de nouvelles négociations sans fin qui finalement dégoûtent un peu plus les Français de la politique.
Alors on a la gauche qui est à la manœuvre, qui vilipende beaucoup déjà ce nouveau gouvernement. Là aussi la bataille risque d'être rude.
À gauche. Entre les gauches ?
Ah, alors peut-être entre les gauches aussi.
Possible. Oui, bah écoutez, ils sont dans ce rôle d'opposition, de un peu, je trouve, de jouer la surdité, de dire qu'ils ont perdu, qu'ils ont gagné. Le lapsus, qu'ils ont gagné, qu'ils méritaient d'appliquer leur programme, rien que leur programme. Je regrette cette posture qui finalement n'est pas positive ni productive. Il aurait fallu discuter. Je crois que le camp présidentiel y était tout à fait ouvert et même le souhaitait, en tout cas avec une partie de la gauche. Ça n'a pas été, on n'a pas eu d'oreille à cette envie de discuter ensemble. Donc, dont acte, puisqu'ils veulent jouer l'élection d'après et le coup d'après, c'est dommage pour tous les Français parce qu'entre-temps, il y a des urgences auxquelles je crois que les Français souhaitent qu'on réponde.
C'était impossible pour Emmanuel Macron d'accepter la candidature de Lucie Castet, par exemple, comme Première ministre.
Lucie Castet, sur une plateforme, le programme du NFP, rien que le programme du NFP, le soutien de la France insoumise, ce n'était pas possible.
Il n'y avait pas de discussion possible.
Je crois que Lucie Castet n'a pas souhaité non plus. C'est-à-dire que s'il y avait eu une coalition comme là, il y a eu entre les LR et le camp présidentiel, peut-être qu'il y aurait pu y avoir quelque chose. Mais à partir du moment où c'était un gouvernement qui était uniquement du NFP avec 100 députés de moins que la majorité absolue, c'est-à-dire un gouvernement qui était sûr de tomber, puisque à partir du moment où le camp présidentiel, la droite, l'extrême droite ont décidé que nous allions censurer, c'était fini. Il n'y avait pas de majorité. Et il aurait fallu être ouvert à la discussion. Lucie Castet, pourquoi pas ? Mmh. J'ai pas de problème de personne, mais c'est sur le programme. À partir du moment où il n'y avait pas de discussion sur le programme, c'était fini. C'était là encore une posture. L'idée, c'était d'avoir le pouvoir pour faire des annonces, puis tomber. Et ça, je trouve que c'est dommage pour le pays.
On l'a entendu, cette réflexion autour de la politique aujourd'hui, les partis qui reprennent beaucoup d'ampleur, le Parlement qui reprend aussi beaucoup d'ampleur, on l'a vu. Est-ce que on atteint les limites finalement de la 5e République ? Est-ce qu'on a fait un petit retour à la 4e, j'allais dire peut-être dans le sentiment de fonctionnement ?
Mais je n'étais pas né au moment de la 4e République. Je crois qu'on est beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette 5e République. Peut-être qu'il y a besoin d'ajustements, en effet. Et je trouve que peut-être que collectivement, nous manquons de maturité par rapport à une République parlementaire, mmh. que je trouve parfaite. Mais on l'a vu, les coalitions se bâtissent après l'élection et pas avant l'élection. Et là, ce qu'on se disait tout à l'heure sur la gauche, c'est une incapacité de se parler parce qu'on a l'impression que tout compromis est une compromission. Mmh. Que de se parler, c'est se dédire. Que le camp présidentiel qui gouverne avec la droite, c'est le camp présidentiel qui devient la droite, qu'il était en fait dans le fond. Mmh. Qui gouverne et peut-être même devient même l'extrême droite, si on écoute certains.
C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit parfois.
Or, il se trouve que dans n'importe quelle république parlementaire, ce n'est pas parce qu'on gouverne ensemble que nous sommes pareils. nous pouvons garder notre identité, gouverner ensemble sur une plateforme programmatique commune, aller jusqu'au bout pour le pays, avec chacun notre ADN.
Avec néanmoins là aussi l'esprit de discussion, de compromis que nos voisins allemands maîtrisent très bien finalement.
Allemand, espagnol,
ou espagnol, oui.
Italien, autrichien, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps. C'est des choses qu'on l'on pratique un peu partout. Et d'ailleurs sur l'Autriche, je me permets juste de dire, l'extrême droite est arrivée en tête à l'élection. Ce n'est pas l'extrême droite qui va gouverner et qui aura un poste de Premier ministre. C'est un message pour tous les partisans du NFP qui disent que Lucie Castet aurait dû être Première ministre parce qu'ils sont arrivés en tête.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Guillaume Auffray, président de Renaissance Morbihan, vous êtes également élu local, je le précise, c'est important. On parlait des élus de territoire tout à l'heure. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.